Les lumières multicolores des guirlandes de Noël suspendues sous l'arche de bois transformèrent les deux hommes en arlequins lorsqu'ils passèrent dessous pour gagner le Campo San Stefano. Un éclairage plus intense provenait des baraques du marché de Noël où vendeurs et producteurs venus de toutes les régions d'Italie tentaient d'appâter le chaland avec leurs spécialités. Fromage à croûte sombre et paquets de pain ultra mince de Sardaigne, olives de formes et de couleurs variées à l'infini venant de toute la botte, huile d'olive et fromage de Toscane, salami de toutes les longueurs, diamètres et qualités imaginables d'Émilie. De temps en temps, l'un des marchands chantait brièvement les louanges de ses produits. « Goûtez-moi ce fromage, signori, c'est le goût du paradis !» « Il se fait tard et je voudrais rentrer dîner seulement 9 € le kilo jusqu'à épuisement du stock. Essayez mon pecorino, signori, c'est le meilleur du monde !» Les deux hommes passèrent devant les baraques, sourds aux admonestations des vendeurs, aveugles aux pyramides de salami qui s'élevaient de part et d'autre de l'allée. Leur nombre réduit par le froid, les acheteurs de dernière minute posaient des questions sur des produits dont ils se demandaient s'ils ne les auraient pas à un meilleur prix et dans une qualité plus fiable à leur magasin habituel. Mais comment mieux célébrer la saison qu'en profitant de ces étals ouverts le dimanche? Comment mieux faire preuve d'indépendance et de caractère qu'en achetant quelque chose dont on n'avait pas besoin? Les deux hommes firent halte à l'autre bout de la place, juste après la dernière baraque en préfabriqué. Le plus grand consulta sa montre, bien que l'un et l'autre eussent jeté un coup d'œil à l'horloge de l'église. L'heure officielle de fermeture du marché, 19h30, était passée depuis plus d'un quart d'heure. Mais il était peu vraisemblable qu'un fonctionnaire voulût affronter le froid pour vérifier que les vendeurs pliaient bagages à l'heure. « Allora ?» demanda le plus petit des deux à son compagnon. Le grand retira ses gants, les plia et les glissa dans la poche gauche de son manteau, puis enfonça les mains dans ses poches, imité en tout point par son camarade. Ils portaient l'un et l'autre un couvre-chef, le grand un borsalino gris foncé et le plus petit un bonnet de fourrure à rabat, ainsi qu'une écharpe en laine autour du cou qu'ils resserrèrent et remontèrent jusqu'à leurs oreilles. Un vent glacial soufflait sur eux depuis le grand canal, juste à l'angle de l'église San Vidal. Vent qui les obligea à se tenir courbés lorsqu'ils repartirent, la tête rentrée dans les épaules, les mains au chaud dans leurs poches. À une vingtaine de mètres de la dernière baraque, de chaque côté du passage, des petits groupes de noirs s'affairaient. Après avoir étendu des toiles sur le sol, maintenues en place par des sacs à main, ils se mirent à sortir des articles de formes et de tailles différentes, d'énormes sacs de marins dispersés sur le sol à côté d'eux. Prada, Gucci, Louis Vuitton, les marques se bousculaient dans une promiscuité qu'on ne voit guère normalement que sur les rayons de magasins suffisamment grands pour être franchisés par toutes celles-ci. Rapidement, avec l'efficacité de gestes qui était le fruit d'une longue expérience, les hommes se penchaient ou s'agenouillaient pour installer leurs marchandises sur les toiles. Les uns les disposaient en triangle, d'autres préféraient les aligner en rangées bien nettes. L'un d'eux eut la fantaisie de les mettre en cercle, mais lorsqu'il recula pour juger de l'effet, il constata qu'un gros sac Prada à bandoulière rompait la symétrie générale, et il les redisposa rapidement en rangées toutes droites, le Prada montant la garde dans le coin du fond à gauche.